VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Tchad, plus que 13 aspirants à la présidentielle du dimanche 10 avril, Mahamat Brahim Yesko, candidat du MDA, a annoncé son désistement en faveur du président Idriss Déby Itno qui brigue un nouveau mandat. Yesko est le père de Zoura, l'adolescente de 16 ans, victime d'un viol collectif en février dernier. Il affirme qu'il se battra pour obtenir justice pour sa fille. Mais en politique, il dit soutenir le président Déby pour les efforts du chef de l'État en matière de sécurité au Tchad. Les explications de Mahamat Brahim Yesko au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Moi, avec Déby, nous avons un problème politique. Le problème Zoura, c'est un problème des familles des Tchadiens. Donc, il ne faut pas que les gens mènent des amalgames. Et c'est les responsables de ces problèmes, c'est les individus qui ont fait l'acte. Et la justice les a incarcérés, et les a emmenés à Korotora. Maintenant, à partir de ces bruits, quand ça prend fin, ils seront jugés. Le jour que ma fille n'est pas jugée, je crois que je serai le premier à aller mourir sur les champs d'honneur. Le problème de Zoura est un problème où jusqu'à aujourd'hui, Obama a en main. Le problème de Zoura est aujourd'hui, le Parlement européen a déjà en main. Donc, elle aura justice. Les Tchadiens doivent patienter. Le jour où ma fille n'a pas eu justice, je crois que je suis le premier à perdre ma belle vie. Mais ça veut dire que je vais mourir pour ma fille. C'est pas Déby qui va m'empêcher pour que j'aie justice. Donc si je pars chez Déby, c'est pas pour lui demander justice. Mais je pars chez Déby sur les problèmes de mon pays, le Tchad, pour les services de sécurité. C'est pas le 12 ou le 13 se réunissent demain pour faire une manifestation qui aura la paix dans ce pays. C'est pas le 12 ou le 13 vont demain faire la marche qui aura la paix. La paix, c'est dans la tranquillité et en conciliation avec Déby. Pas en bras tendus.
Mahamat Brahim Yesko, le candidat du MDA qui s'est désisté en faveur du président Idriss Déby Itno au Tchad. Politique en RDC, après la rencontre de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, chef de file du G7 d'opposition, et le patron de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, à Bruxelles, l'UDPS juge prématurée l'idée d'une alliance entre ces deux groupes d'opposition et souligne son intention de présenter son propre candidat à la prochaine présidentielle. Son secrétaire général Bruno Mavungu l'a fait savoir lors d'une conférence de presse hier. Les détails avec Pascal Kapalai de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au sujet des tractations menées par Moïse Katumbi pour un candidat unique de l'opposition à la présidentielle de 2016, l'UDPS rejette toute alliance.
L'UDPS a souffert. Pour que l'UDPS soit ce qu'il est aujourd'hui, il fallait beaucoup de courage. Et chaque initiative qui vient pour détruire les partis politiques, nous ne sommes pas partie prenante. Les alliances, c'est bon pour gagner, mais les partis politiques est étouffé. Donc, si c'est pour gagner qu'on doit être ensemble, alors j'ai dit que la raison n'est pas suffisante. Donc, nous devons chercher à trouver comment arriver à une élection apaisée, une élection transparente.
Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, propos recueillis par Pascal Kapalai de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. A noter que le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a déclaré aujourd'hui à Kinshasa que la pression des Nations Unies et de l'opposition congolaise en faveur de la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels frisait l'irresponsabilité. Congo-Brazzaville, Washington estime que la réélection de Denis Sassou Nguesso a été émaillée d'irrégularités. Et le département d'État américain ne cache pas sa profonde déception d'un processus électoral imparfait dans le pays, selon un communiqué de Washington. Le ministère américain des Affaires étrangères, qui déplore les arrestations de partisans de l'opposition dans la foulée des élections présidentielles, a exhorté le gouvernement congolais à corriger ses nombreuses déficiences avant de programmer les élections législatives pour apporter une crédibilité aux processus électoraux à venir. Congo-Brazzaville toujours, le président Sassou Nguesso a démis de ses fonctions le pasteur Tata Ntoumi. Ce dernier occupait jusque-là le poste de délégué général auprès du président de la République chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. L'ancien chef rebelle est accusé d'être à l'origine de l'attaque de lundi à Brazzaville et l'intéressé a démenti ses accusations le même jour sur VOA Afrique. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent dans le Poule, la région du sud dont est originaire Tata Ntoumi. Les explications de Tata Ntoumi au micro de Nicolas Pino.
À ma connaissance, le président Sassou n'a pas encore pris les fonctions. Et si j'ai été nommé par décret présidentiel, réellement, c'est un autre décret présidentiel qui allait abroger le décret qui me nommait. Et là, il venait effectivement de prendre un décret présidentiel. Ben, qui l'a signé? Il l'a signé en tant que qui? Bon, on se demande. Posez-vous la question vous-même. Je sais que moi, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'à la manière où se font les choses ici en Afrique, c'est de la barbarie.
Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le pool, notamment?
Effectivement, nous sommes sous des bombardements chaque jour. Ça fait plusieurs jours. Il y a des destructions massives. Les populations sont en errance dans des forêts. Les écoles sont fermées. Les écoles aussi sont détruites. Les dispensaires aussi. Ça se passe dans Kinkala, précisément dans un village qu'on appelle Somuna. Ça se passe aussi dans le district de Vinza. Il y a eu aussi des bombardements. Dans le district de Mayama, il y a aussi eu des bombardements.
Qui vous bombarde?
C'est le président Sassou. Ce sont les forces du gouvernement. Nous interpellons la communauté internationale. Il faudrait que la communauté internationale intervienne pour qu'il y ait une médiation et que toute la classe politique s'asseye. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on présente la situation que c'était des bandits qui étaient allés attaquer les positions de la police. Mais il y a d'abord une cause qui est là. Nous sommes dans une contestation d'une élection présidentielle truquée.
Le pasteur Tata Ntoumi au Congo, Brazzaville.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les ministres des Finances de la zone franc vont se retrouver samedi à Yaoundé sur fond d'interrogation sur l'avenir du franc CFA dont certains souhaitent l'abandon. Les précisions de John Lyndon.
Les ministres des Finances de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre utilisant le franc CFA vont se réunir avec leur homologue français, Michel Sapin, pour faire le point sur la situation économique. La question de l'avenir du franc CFA pourrait revenir sur le tapis. Ce débat récurrent depuis la création de cette monnaie il y a 70 ans a été relancé en 2015 par le président tchadien Idriss Déby Itno qui avait appelé les pays à se doter de leur propre monnaie. Lors du dernier sommet de la zone franc, le 2 octobre à Paris, Michel Sapin avait rappelé que la France est ouverte à toutes les discussions. De passage à Paris hier, le président du Burkina Faso, Rochmar Christian Caboret, banquier de son métier, a assuré que tôt ou tard, il faudra en discuter au regard des difficultés que traverse l'Europe. Le franc CFA, utilisé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est lié à l'euro par un système de parité fixe. Pour garantir cette parité, les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français.
Burkina Faso, le cadre de concertation des organisations de la société civile hausse le ton dans le pays. Accusée de blanchiment d'argent, cette plateforme dit être dans le collimateur du nouveau pouvoir pour son rôle dans les élections populaires d'octobre 2014. Elle dénonce une cabale du gouvernement contre les organisations pro-transition. On écoute Safiatou Lopez-Zongo, présidente d'honneur des OSC, organisation de la société civile.
Nous avons dit au gouvernement de faire la lumière, de donner les noms de ceux-là qui sont impliqués dans ces histoires de deal de parcelles et de blanchiment d'argent. Parce qu'au niveau du cadre de concertation nationale des OSC, on ne se reconnaît pas dans ces histoires. Parce que si vous avez des preuves, pourquoi vous ne sortez pas ces preuves? Je me dis que dans ce gouvernement-là, même s'il y a des gens qui sont impliqués dedans, ils ont des camarades dans ce gouvernement, donc ils ne font pas de communication. C'est jeter le discrédit sur les OSC et puis se mettre de côté. Et c'est ça que nous avons dit que nous ne pouvons plus accepter. On s'est dit non, il faut les casser pour réorganiser des gens qui sont acquis à leur cause. Ils peuvent créer, mais nous disons, où étaient ces gens-là? Il y a un problème. Nous, nous avons risqué nos vies, la vie de nos familles. Des autorités aujourd'hui ne savent même pas comment nous avons mené cette lutte-là. On ne peut pas regarder l'insurrection à la télé et puis venir gérer ce pays-là. Ça, au moins, c'est clair. Si tu ne tiens pas compte de ce qui a amené le soulèvement populaire, tu as échoué.
Safiatou Lopez-Zongo, présidente d'honneur des organisations de la société civile au Burkina Faso. Djibouti maintenant, les Djiboutiens votent en ce moment pour choisir leur président. Le chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh étant presque certain d'être réélu à la tête d'un pays qu'il dirige d'une main de fer depuis 1999 en raison des divisions au sein de l'opposition. Quelques 187 000 électeurs, soit un peu moins du quart de la population, sont appelés aux urnes dans les 455 bureaux de vote du pays. Les résultats sont attendus le soir même. Et puis aux Comores, ce sera le second tour de la présidentielle dimanche. Les trois candidats qualifié pour le scrutin, était arrivé dans un mouchoir de poche au premier tour le 21 février. L'actuel vice-président Mohamed Ali Soili Dimamadou avait décroché la première place devançant le gouverneur de l'île de la Grande Comore, Mouni Baraka. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.